Le combat dans les pensées, c'est véritablement une constante dans la vie de disciple, c'est tout l'enjeu en fait du combat spirituel. Il y a un verset qui est souvent répété en 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes selon Dieu, pour renverser les forteresses et détruire les raisonnements. Tout ça, c'est les forteresses des pensées. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc c'est vraiment le sujet de ce podcast, mais également le sujet récurrent dans toutes nos formations, puisque toute fausse doctrine, ce qui est la plaie de notre monde actuel, toute fausse doctrine est à la base un raisonnement humain qui se propage et qui est accepté comme vrai, alors qu'il ne vient pas de Dieu. Et vous voyez que dans ce verset, en 2 Corinthiens, on voit que les armes de la guerre spirituelle ne sont pas charnelles, ce ne sont pas des techniques humaines, mais puissantes selon Dieu. Donc c'est véritablement selon la puissance de Dieu qu'on peut gagner ce combat dans les pensées. Et Jésus nous montre effectivement où il a ce problème-là parmi les disciples. En Luc 9, versets 46 à 48, Or il survint entre eux une discussion, donc les disciples, lequel d'entre eux était le plus grand? Mais Jésus, voyant la pensée de leur cœur, vous voyez, donc c'est véritablement ce combat dans les pensées qui est illustré ici. Il prit un petit enfant et le plaça auprès de lui, et il leur dit, quiconque recevra cet enfant en mon nom me recevra, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit d'entre vous tous, celui-là est grand. En Marc, on voit une version de cette épître-là où l'accent est mis sur l'humilité. Marc 9, versets 34 à 35, ils se taisaient car entre eux ils avaient discuté en chemin lequel était le plus grand. Et s'étant assis, il appela les 12 et leur dit, Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et on retrouve encore une autre version en Matthieu, où l'enseignement est précisé, et comme toujours chez Matthieu, c'est très pédagogique. En Matthieu 18, versets 3 à 5, En vérité, je vous dis que si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc se rendra humble comme ce petit-enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, on voit déjà que Jésus contredit à nombreuses reprises la doctrine très courante du salut automatique qui est conféré une fois pour toutes, puisqu'on voit bien qu'il prévient les disciples que s'ils ne changent pas, s'ils ne se convertissent pas et qu'ils ne deviennent pas contre les enfants, ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Et on verra un peu plus loin, notamment dans la parabole du semeur, de nombreux chrétiens, entre guillemets, qui chutent. Matthieu nous fait aussi cette affirmation de la protection des anges qui est conférée aux vrais disciples. Un peu plus loin, en Matthieu 18:10, Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux regardent sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que le vrai disciple, selon le modèle du petit enfant, est celui qui se laisse enseigner toutes choses par l'Esprit Saint. Il n'a pas l'orgueil des certitudes de pensée, d'être intelligent et de comprendre par lui-même, comme les hommes, comme les disciples, comme tout le monde. Et c'est ça ce qui confère cette protection des anges, c'est le fait de se laisser grandir en Christ. Et là, il y a une protection des anges. Plus on cherche à être à l'imitation du Christ, plus les anges nous protègent. En Ésaïe 55, versets 8 à 9, il y dit cette vérité première, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La volonté de Dieu ne s'apprend certainement pas dans le raisonnement, encore moins en faculté de théologie, puisque c'est le royaume du raisonnement humain. On va beaucoup plus apprendre comment Calvin pense que comment Christ pense. Et c'est indiqué en 1 Corinthiens 2, versets 11 à 16, car qui est-ce qui sait ce qui est en l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ces choses qui nous ont été données de Dieu, lequel nous annonçons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. En verset 14, l'homme naturel ne reçoit pas ces choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et en verset 15, car qui a reçu la pensée du Seigneur pour le pouvoir instruire, mais nous avons la pensée du Christ, qui est le thème du podcast. Donc, On ne peut, pour avoir la pensée du Christ, que mourir à nos vies humaines et raisonnements humains pour laisser l'esprit nous faire grandir en Christ. C'est martelé également en 1 Corinthiens 3, versets 18 à 30, que personne ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, c'est lui qui surprend les sages dans leur finesse. Le Seigneur connaît la pensée des sages, il sait qu'elles sont vaines, afin qu'ainsi que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Toutes choses sont à vous et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Par l'imitation du Christ, on s'approche de Dieu. Donc, c'est une grande désobéissance à Jésus de miser tellement sur l'intelligence humaine, qui est pourtant toute l'histoire de la Réforme. Dans l'histoire de la Réforme, la théologie, dans le sens de science humaine, et c'est encore appelé comme ça, a explosé. C'était vraiment la science, la connaissance humaine, qui permettait de s'approcher de Dieu. Par exemple, la prédication qu'on entend encore, ça a été enseigné pendant longtemps comme étant l'art du discours et l'art de la rhétorique, comme les avocats le font. Encore un autre exemple dans la théologie, le fondateur de l'herméneutique, une science de l'interprétation des textes telle qu'enseignée en faculté, c'est Martin Heidegger, qui se définit en fait comme philosophe, qui est un admirateur d'Aristote, donc grec, et qui discourt sur la compréhension savante de la Bible. C'est ça la base de la théologie. Et un autre fondateur de l'exégèse biblique, qui est une autre discipline proche de l'herméneutique, l'étude des textes, c'est Spinoza. Athée notoire, hein, du courant rationaliste. Et tout est basé là-dessus, sur des hommes, des athées en plus. Aujourd'hui encore, certains se définissent comme luthériens ou calvinistes, suivent des hommes et non pas Jésus. Et pourtant, c'est complètement opposé à la connaissance de Dieu. Il faut véritablement sortir des forteresses de la pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu, pour revenir aux disciples qui cherchent à être grands, en fait, par eux-mêmes. Parce que la forteresse de la pensée s'oppose à la connaissance de Dieu, mais on a aussi l'exemple de ces disciples qui cherchent à grandir par eux-mêmes, mais exactement comme ces théologiens qui cherchaient à s'élever dans leur pensée. Et que nous dit Jésus en Matthieu 18,9? Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et être jeté dans la géhenne du feu. C'est quoi l'œil? C'est ce que tu regardes, que tu convoites. C'est exactement comme le péché de la femme que tu convoites, c'est ce que tu veux. Et beaucoup, on voit dans la vie de Calvin, il voulait être ce grand réformateur, il voulait dominer, il a fait plein de lois dans ce sens, à Genève, enfin, c'est l'œil, hein, voilà ce qui le motive. C'est précisé encore en Matthieu 6, versets 22 à 23, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, la lampe du corps est l'œil. Si donc ton œil est sain, tout le corps sera éclairé, mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien se rencontrent les ténèbres? La question c'est qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu admires? Si tu admires ces chaînes avec des centaines de milliers d'abonnés en disant, voilà, c'est ça un modèle, c'est que tu veux être grand comme eux. Et ça, c'est l'opposé du modèle que nous montre Jésus. Tu n'es plus, dans ce cas-là, un petit enfant qui attend l'enseignement de l'Esprit. C'est en fait Paul qui imite lui-même Jésus qu'il faut imiter. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Paul, en 2 Corinthiens 12, versets 7 à 12? Et afin que je ne m'élève pas, on retrouve le même thème que pour les disciples. À cause de l'excellence des révélations, il m'a été donné une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'élève pas, répétez donc ici. Trois fois à ce sujet, j'ai invoqué le Seigneur afin qu'il se retirât de moi, donc de cette écharpe dans la chair. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les opprobres, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est le même enseignement, effectivement. Le premier et le dernier. D'ailleurs, on le voit dans la vie de Paul, en Apocalypse, à peu près toutes les églises fondées par Paul ont fini par s'écarter de la saine doctrine, qui préfigure d'ailleurs les églises modernes. C'est une autre doctrine. Et Paul n'aurait jamais eu une chaîne YouTube à succès, il n'est pas populaire, Paul. Ceux qui annoncent véritablement Christ ne sont pas populaires. Quand on voit en 1 Corinthiens 4, 21 qu'il nous dit « Que voulez-vous? Que j'aille avec vous avec la verge » C'est-à-dire que j'aille pour vous punir avec un bâton. Voilà ce qu'il dit. Ou avec amour, un esprit de douceur. Il dit aux Corinthiens « Vous êtes tellement détournés de Dieu que est-ce que vous voulez vraiment que je vienne avec un bâton? Est-ce que c'est ça la solution ?» Et quand il raconte son périple en 2 Corinthiens 11, versets 24 à 30, voilà ce qu'il dit. « J'ai reçu des Juifs 5 fois 40 coups moins 1 », ça c'est la punition juive qui est très dure. « J'ai été battu de verge 3 fois, lapidé 1 fois, j'ai fait naufrage 3 fois, j'ai passé un jour et une nuit dans le profond de la mer, en voyage souvent, en danger des voleurs, en danger sur les rivières, en danger de la part de ma nation, en danger de la part des païens, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger parmi les faux frères, dans le travail, dans la peine, dans la faim, dans la soif, dans les jeûnes, souvent dans le froid et la nudité. » Jeûne parce que effectivement, il était également dans la faim. « Outre les choses du dehors, je suis assailli tous les jours par les inquiétudes que me donnent toutes les églises. » Voilà le quotidien de Paul. Ça donne pas l'image d'un homme à succès, tel qu'on le voit dans beaucoup d'églises. Ce modèle-là est inverse, en fait, de ce que l'on voit dans les prédicateurs à succès. « Qui est faible que je ne sois faible aussi, qui est scandalisé que je ne brûle aussi. S'il faut se glorifier, je me glorifierai de ce qui regarde mes faiblesses. » Et c'est ça, c'est parce que je suis petit, c'est parce que je suis comme l'enfant, c'est parce que je m'attends à Dieu que véritablement je peux grandir en Christ. Et l'enseignement de Jésus sur la faiblesse de nos pensées se retrouve également dans la parabole du semeur, Luc 8, versets 13 à 14. « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, entendu la parole, la reçoivent avec joie et pourtant ils n'ont pas de racines, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez dans la pensée de Christ. » Ils ne croient que pour un temps, et au moment de la tentation, ils se retirent. Et un autre épisode, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui y ont entendu et s'en allaient, sont étouffés par les inquiétudes, et par les richesses, et par les plaisirs de la vie, et ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Donc là encore, ça contredit la doctrine du salut automatique, on voit plein de chutes de chrétiens. Et les inquiétudes du monde sont mises en avant, c'est également une source de chute très importante. Quelle est la réponse de Jésus dans ça? Et on voit un passage qui est très puissant, c'est par rapport à Lazare. En Jean 11, versets 39 à 40, il y a ce passage. « Jésus dit, ôtez la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. » Et Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc, Jésus fait ce miracle, cet homme qui, humainement parlant, c'est fini, son corps est en décomposition et pourtant il revient à la vie. Pour nous montrer, la gloire de Dieu, c'est nous montrer que même une situation qui semble impossible à nous, humainement parlant, Dieu peut agir. Et Dieu va agir si nous croyons en son action et si nous suivons sa volonté. Donc c'est ça la réponse à l'inquiétude. On est en permanence assailli d'inquiétude, effectivement, sur l'argent, la santé, tout ce qui nous inquiète, et Dieu nous montre que on peut traverser ça avec lui à condition que nous abandonnions nos raisonnements humains. Ah, c'est pas possible. Si, pour Dieu, tout est possible. Voilà la gloire de Dieu. La vraie gloire de Dieu, c'est voir une chose impossible aux hommes. C'est pour ça que, comme on voit la réussite de ces, entre guillemets, généraux de Dieu, c'est l'opposé, puisque les hommes d'affaires réussissent comme eux. Hein. Ils sont riches, célèbres, importants, mais ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu, qui est le fait de faire des choses impossibles aux hommes, comme ce que nous montre Jésus. Donc, comment Jésus lutte contre l'angoisse et l'inquiétude quand il a un danger qui se rapproche? Et il nous laisse un exemple qui est très fameux, en Luc 39, 41-43. Jésus leur dit, c'est juste avant effectivement la montagne des Oliviers, il connaissait son destin, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Et lui-même s'éloigna et s'étant mis à genoux en disant « Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Et un ange venu du ciel lui apparut pour le fortifier. En fait, en étant comme un petit enfant, nous remettons toutes nos difficultés à notre Père qui est dans le ciel. Et nous apprenons donc tous les jours de la saine doctrine en rejetant notre façon humaine de faire. Humainement parlant, Jésus était dans une inquiétude extrême, puisque sa sueur était devenue du sang. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il fait comme d'habitude, Dieu, c'est toi qui dois me montrer la voie. Donc cette écoute de Dieu permanente, quotidienne, encore plus dans les épreuves et les inquiétudes. Dieu, s'attendre à Dieu, demander à Dieu, dire à Dieu la situation et suivre en permanence les pensées du Christ, les pensées de Dieu, donc la saine doctrine. C'est ça le renouvellement d'intelligence en Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.